Sokɛ ka ɲi siri bɔlɔ la kayala
musow ka fo
ka wale ɲumandon
musow ka fo
ka bonyaɲa sɔrɔ musow ka bɛ yaki
walekɛ
musow ka
fa ni fa
bonyaɲa sɔrɔ.
Les nouvelles d'ici et d'ailleurs vous sont aujourd'hui présentées par votre serviteur Christophe Jubien. J'ai le très grand plaisir de recevoir Didier Henry, curé doyen du Perche, Brou et environ, qui revient d'un voyage en Haïti qu'il a effectué du 25 janvier au 2 février dernier. Il s'agit, Père Henry, de votre deuxième voyage. Le premier, eh bien, vous l'aviez fait dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Rappelez-nous lesquelles.
Ben, le premier, c'était il y a 3 ans, 2 ans après le terrible tremblement de terre du 10 janvier 2010, pardon, et où il y avait eu entre 250, on dit maintenant peut-être 300 000 morts en 35 secondes, enterrés dans des fosses communes que l'on voit quand on va à Cabaret le long de la côte. Et j'avais vu une situation vraiment épouvantable encore, des maisons encore bien abîmées, détruites, des tas de pierres et des tas de terre, si l'on veut, ce qui veut dire que probablement en dessous il y avait des corps qui ont vite desséché, on m'a expliqué, parce qu'il faisait chaud et c'était pas la saison des pluies, sinon heureusement. Mais une situation aujourd'hui quand même meilleure.
Meilleur, oui, on va voir ça dans le détail. On va faire un tout petit peu de géo, parce que certains de nos compatriotes ont du mal à situer Haïti. C'est pas du tout à côté de l'Afrique.
Oui, il faut bien expliquer, c'est Haïti, c'est pas Tahiti.
Ah, oui.
Ah ben non, mais parce que là-bas, à Brou, on m'a dit « Ah, vous rentrez de Tahiti ?» Non, je rentre de Haïti, c'est tout près de Saint-Domingue. Ça, il y a beaucoup de Français qui vont en vacances là-bas. Il n'y a hélas pas beaucoup de touristes en Haïti. Et puis, c'est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de Cuba. Voilà, c'est dans les Caraïbes.
C'est dans les Caraïbes et c'est une région du monde qui essuie de nombreux ouragans, de nombreux typhons.
Alors, ils n'ont pas de peau, c'est le pays le plus pauvre du monde. C'est le pays qui est indépendant depuis 1802. Le premier président, d'ailleurs, est mort en France, dans le Jura, dans des conditions épouvantables. Napoléon l'a finalement assassiné. Enfin, il l'a laissé mourir de froid et presque de faim.
C'était le fameux
Toussaint l'ouverture. Et puis, alors, ils n'ont pas de peau. Et puis là, ils ont les tremblements de terre, les typhons, les cyclones, etc., etc. Enfin, ils ont tout.
Ouais. C'est une région qui vivait à peu près de quoi avant l'ouragan? C'est plutôt une région agricole. On fait quoi? De la canne à sucre ou...
Ah, il y a de la canne à sucre. Il y a des régions agricoles. Quand on va dans les montagnes, c'est très rigolo de voir des plantations de choux, de salades et tout ce qu'on veut, les poireaux, le maïs, bien sûr. Mais sur la côte, c'est plutôt très aride et sec, surtout à la saison du mois de janvier. Mais la pêche. Et puis, je crois que... Aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'on... Je ne crois pas que l'on meurt de faim en Haïti. Il y a probablement beaucoup de pauvres, ça c'est sûr. De la misère, de la vraie misère, comme on pourrait l'imaginer. Je ne crois pas que ça existe encore, à part quelques cas, bien sûr. Surtout aujourd'hui. Et la première grande impression positive que j'ai eue, c'est dès la descente de l'avion. Je dis à la sœur, c'est drôle, parce que j'étais avec les sœurs de Saint-Paul de Chartres, on ne l'a pas encore dit, chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres, qui sont 29 là-bas, une majorité de haïtiennes. Et la première grande impression, c'est la propreté. C'est propre. Alors qu'il y a 3 ans, c'était les rues...
On n'en était pas là.
C'était des rues comme dans les pays pauvres, comme on voit, avec des détritus partout. Mais maintenant, le gouvernement a fait un effort énorme, ce qui veut dire qu'il n'y a pratiquement plus de cas de peste et de choléra. Il y a 3 ans, il y avait la peste et le choléra quand je suis allé. Et aujourd'hui, même dans les quartiers dits pauvres, c'est propre, relativement propre dans d'autres, mais ça, c'est très impressionnant. Et c'est très agréable de se promener sans avoir des rats qui nous courent. J'ai vu des rats à New York pendant mon escale, mais pas à Haïti.
Voilà, j'en ai vu il y a quelques minutes sur la butte des charbonniers. Oui,
c'est ça. Donc, chez les pays riches, finalement, il y en a plus.
Vous étiez évidemment invité là-bas par les sœurs de Saint-Paul-de-Chartres qui font un travail, j'imagine, comme partout ailleurs, important.
Alors,
pour les Haïtiens.
Ah oui. Elles font un travail extraordinaire de présence d'église, bien sûr. C'est l'année de la vie consacrée. Alors, les sœurs sont déconsacrées, certes, mais là, les sœurs de Saint-Paul sont surtout dans les écoles. Elles ne savent pas exactement probablement 8000, 6, 7000, elles ne savent pas trop combien elles ont d'enfants, parce que ça, c'est un peu à géométrie variable. Le dernier jour que j'ai visité une école, elle me dit, mais il en manque la moitié, on ne sait pas où ils sont passés. Oui, mais il avait plu la veille, et des gens, il faisait froid là, dans la montagne, donc les gens ne descendent pas. Et, mais oui, surtout l'éducation, et puis un peu de dispensaire, et de, je ne sais pas s'il y en a une ou deux qui doivent être professeurs aussi, en plus dans d'autres endroits. Ouais. Mais des petites communautés, 5, 6, 7 sœurs selon les maisons, et partout, partout on sent que Saint-Paul de Chartres veut dire quelque chose. Ouais. Chartres veut dire quelque chose. C'est pas... c'est pas rien. Et à la chapelle de Delma, tout près de l'aéroport, où là, il y avait une école qui a été détruite, la maison des sœurs complètement détruite. Tout ça, c'est en reconstruction, mais pour l'instant, elles n'ont plus de sous. Alors,
est-ce qu'on peut peut-être lancer non
oh, Oui. Il suffit d'envoyer des dons aux sœurs de Saint-Paul de Chartres, rue Saint-Jacques, en marquant la mention Haïti, et ça arrivera. Et puis d'abord, les sœurs aussi vous enverront une déduction fiscale, et ça, il n'y a pas de problème. Et alors là, oui, il y a de la reconstruction à faire. Elles sont toujours dans des préfabriqués. Les sœurs sont dans des... Oh, pas plus grande que le studio, c'est-à-dire 3 mètres sur 2 ou à peu près 6-7 mètres carrés. Ça depuis 5 ans. Les classes sont aussi en préfabriqué jolies, belles, mais 5 ans après, elles m'ont toutes dit que les termites se mettent dans le bois. Donc ça va s'écrouler ou ça va s'abîmer. C'est urgent de reconstruire en dur, en parpaing. Et là, c'est les financements qui manquent, hein, parce qu'ils n'ont aucune aide de l'État, bien sûr. C'est des classes privées. Donc c'est à votre bon cœur. Hein.
Ouais. L'État, c'est quand même, je veux dire, reconstruit.
L'État s'est reconstruit, oui, parce que le président qui était là il y a 5 ans, il est encore là. Il y a des élections au mois de novembre. Et puis, bon, il avait eu beaucoup de difficultés avec l'opposition qui mettait plein de bâtons dans les roues. Mais je crois que les aides internationales n'ont pas été gaspillées, quoi que l'on dise. Et en particulier, je pense au Secours catholique. Le Secours catholique paye les projets qui sont bien bâtis. C'est-à-dire que si le projet, on sent qu'il peut y avoir des détournements ou des tas de malversations, ne cautionne pas. Et quand le projet est lancé, il finance au fur et à mesure. On parlera tout à l'heure ou la Fidesco, une famille de Nogent-le-Roi qui fait ça là-bas. Et puis, alors, tout est dégagé. C'est ça qui m'a impressionné aussi, c'est que, y compris dans la vieille ville où là pouvait encore y avoir des risques de trouver des maisons encore par terre, il en reste quelques-unes, mais c'est pour les touristes, mais il n'y en a pas. C'est, alors, la cathédrale, elle est encore
donc
bien
en ruine. Donc on est à Port-au-Prince,
là. Oui, on est à Port-au-Prince, là. Et puis, tout est bien déblayé. Les reconstructions ont commencé. Le palais présidentiel qui est comme un gâteau qui s'était effondré et maintenant déblayé, les ministères commencent à être construits, mais là c'est pareil, ils n'ont pas beaucoup de moyens hein, également, mais bon, ils y arrivent, et puis je pense à la cathédrale par exemple, la cathédrale sera sans doute reconstruite un jour, ça sera sans doute le dernier, la cerise sur le gâteau de la reconstruction, mais en attendant il y a un Américain généreux qui a payé une cathédrale provisoire, c'est-à-dire un bâtiment où il peut y avoir entre 3 et 4 000 places, c'est immense, en presque dur, et c'est assez beau, tout près de la cathédrale actuelle, mais pendant que j'y pense, à Port-au-Prince, tout près de la cathédrale, vient de s'ouvrir depuis le 1er mars dernier, le nouvel hôpital de Saint-François de Sales, qui a été reconstruit grâce à l'église et à l'église allemande, je crois, d'après ce que j'ai compris.
Donc un pays vraiment en pleine reconstruction.
Ah, en pleine reconstruction.
Vous nous apportez de bonnes nouvelles.
Oui.
Est-ce qu'on se souvient qu'au lendemain et dans les jours qui ont suivi ce terrible séisme, les habitants d'Haïti avaient témoigné d'une foi absolument extraordinaire. Ils étaient abattus, oui. Mais ils n'avaient pas perdu la foi, pas du tout. Et on se souvient que la destruction de la cathédrale avait été un drame réel pour le pays.
Oui, drame, parce qu'en plus, il y avait 50 victimes dedans. Mais et que l'archevêque était mort dans le tremblement de terre, la moitié du clergé. 49 églises à Port-au-Prince sont détruites. C'est-à-dire pas encore toutes reconstruites et probablement faudra attendre des années. Et puis, alors oui, parce que le peuple haïtien... Bon, ben, faut remonter un peu dans l'histoire. Hein. C'est des peuples qu'on a déplacés d'Afrique, qu'on a mis là. C'est la naissance aussi du vaudou, la naissance d'une spiritualité afro-américaine, ouais, ou afro-européenne,
très composite.
Donc, c'est un peuple très religieux, tellement religieux qu'hélas, au tremblement de terre aussi, les sectes sont arrivées avec de l'argent. Et aujourd'hui, les sœurs me le disaient, on peut très bien aller à la messe le matin à 6h15, et puis aller au temple franc-maçon à côté à 11h, et puis le soir peut-être chez les protestants ou autre chose. Il y a un syncrétisme religieux, et puis bon, bah,
ouais, ça va quoi.
Ouais, le bon Dieu se débrouille. Hein. Mais au moins, il y a une religion. C'est pas une religion, il y a du religieux. Il y a du religieux, et puis on prie, les gens prient. On prie à l'école, à 7h30, lever des couleurs. Tous les enfants, j'étais dans une école avec 660 enfants, des tout petits jusqu'à la terminale, tout le monde en uniforme, et on prie, on chante l'hymne national, et je leur ai dit, vous savez, j'ai pas grand chose à vous dire, mais parce qu'on parle français, j'allais dire, à partir de la sixième surtout, je leur ai dit, il y a 3 ans, votre pays était à genoux, non, il y a 5 ans, votre pays était à genoux, il y a 3 ans, quand je suis venu, il y avait un genou encore à terre. J'ai l'impression que maintenant que vous êtes debout, il faut avancer. Et c'est grâce à vous, les jeunes, qui êtes là, que le pays va pouvoir avancer.
Quittons Port-au-Prince et empruntons avec vous votre itinéraire. Quel a été?
Alors, je suis allé à Oriani, dans les montagnes, tout près de la frontière, tout près, hein, de la frontière de Saint-Domingue, à peut-être 1000 mètres ou un peu plus d'altitude. Et bien, figurez-vous qu'il faisait pas chaud. Alors qu'en bas, il faisait peut-être 25 ou un peu plus, et il a plu, il faisait pas chaud. Un moment, on a été enveloppé par les nuages, oh, c'était génial. Les sœurs étaient habillées comme nous en plein hiver, moi j'étais en petit gilet, mais c'était rigolo. Mais alors là-bas, c'est beau parce que j'ai traversé la forêt des pins, une des rares forêts qui existent encore en Haïti, parce qu'ils ont, hélas, pour faire du charbon, ils ont tout rasé. Et puis, c'est là que j'ai trouvé les cultures de... On trouve de tout. C'est assez impressionnant de tendre sa main, de cueillir un avocat qui pourrait même pas être exporté parce qu'il fait 3 fois plus gros que ceux qu'on achète en provenance d'Israël. Et puis, il ressemble à des melons. Alors j'en ai ramassé un, je l'ai ouvert. La sœur, elle me dit, mais vous allez pas manger ça? J'ai dit, mais si, mais c'est sale. Mais non, pas à l'intérieur. Donc j'ai ouvert, j'ai mangé mon avocat, j'étais tout content. J'ai ramené le noyau. J'espère qu'il va faire
gros comme un ballon de foot.
Non, oh, bah, le noyau, non, gros comme une orange, le noyau. Non, mais et puis après, la terre est bonne. Mais alors là, c'est pareil, les sœurs à Oriani, autour de l'école qui est très pauvre, je suis rentré dans des classes où il y a des enfants qui n'avaient rien, les bras croisés, ils écoutaient l'institutrice qui parlait, mais l'institutrice sur son bureau, je n'ai vu aucun livre ni cahier. Et puis, pas d'électricité. Et puis, ils répètent. Il répète, c'est plutôt... mais c'est vraiment très pauvre. Hein. Et là, la sœur m'a dit, on a la moitié des enfants qui ne peuvent pas payer. Ouais. C'est un peu la misère. Dans le dispensaire, un beau petit dispensaire, il y avait une femme enceinte qui était là, qui avait des gros problèmes avec le bébé à naître. Et puis, il y avait un monsieur qui avait une énorme plaie à la cuisse que la sœur était en train de nettoyer. Et l'après-midi, on a croisé une jeune fille de 17 ans enceinte avec son frère, monté sur un âne. J'ai cru voir la Sainte Famille qui arrivait à Bethléem. C'est assez, assez impressionnant. Puis on les a dirigés vers la sœur pour qu'elle reçoive cette jeune fille qui avait des contractions. Mais bon, c'était pas l'heure, mais il fallait quand même qu'elle soit rassurée. Et puis, il y a des terres. Il y a des terres, elles ont plusieurs hectares. Mais s'il y avait un petit motoculteur, parce que des tracteurs, c'est pas la peine, des charrues, c'est pas la peine, mais petits motoculteurs, parce qu'ils font ça à la houe, comme nous au Moyen-Âge. Alors, ils ont 1 ou 2 ouvriers, alors c'est des heures et des heures de perdu. Mais une fois que c'est planté, ça pousse. Tout pousse là-bas. Et par contre, pour aller à Oriani, c'est super, 100 km, 4h30, ce qui vous donne l'état de la route. Ah oui. Une route épouvantable. On est même pendant plusieurs kilomètres dans le lit de la rivière. Alors quand il pleut, on peut pas passer, mais c'est des torrents quand ça pleut. Hein. Oui. Et puis, alors après, on est allé à Cabaret. Cabaret, c'est sur la côte entre Port-au-Prince et Cabaret. C'est là où les sœurs ont 2 écoles et puis le noviciat. Elles ont 2 novices actuellement. Elles en ont eu deux quand elles ont quatre jeunes sœurs qui se préparent. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? De là, on est parti à un petit village qui s'appelle, ça y est, j'ai perdu son nom. C'est un petit village où est né à Caillès, ça y est, j'ai retrouvé, pardon pour le trou. À Caillès, c'est la cité du drapeau. C'est là où Catherine Flon, en 1803, une dame qu'on appelait la folle, avait dessiné un drapeau. Et le drapeau haïtien est né là, avec la devise « L'union fait la force ». Il y a un tout petit musée sans prétention, mais c'est une belle petite ville. Et puis là, il y a des sœurs aussi qui ont une école assez ancienne. Et puis là aussi, beaucoup d'élèves. Mais là, c'était un samedi, moi, les élèves n'étaient pas là, mais... Non, j'ai vu beaucoup de belles choses.
Hein, partout où vous êtes allé, vous avez trouvé des gens hospitaliers aussi.
Bah, les gens hospitaliers, les sœurs, avec les sœurs, ouais. c'est un passe-partout. On passe partout avec les sœurs. Hein. Je suis allé là aussi, c'est intéressant. Nous avons dans le diocèse des Chartres, je crois que c'est 7 ou 8, au moins 7, je pense, ou 6, je sais plus, prêtres haïtiens. De Voluntas Dei, et je suis allé dans leur maison, la maison mère là-bas, qui elle a échappé au tremblement de terre, et j'ai rencontré un responsable et je leur ai dit que ben, nos petits pères haïtiens, on les aimait chez nous, et il y a comme une sorte de parrainage, partenariat avec les... On a deux séminaristes, on a encore un séminariste haïtien à Orléans, et puis il y a Abelson, pour ceux qui le connaissent, sur Lève, non, oui c'est ça, je ne sais plus, ou Luisan plutôt Luisan. Et puis, ben voilà, c'est... Oui, il y a des liens qui se créent.
Qui se créent entre Chartres et Haïti.
Ah ben Chartres, oui, entre Chartres et Haïti. Pas uniquement grâce aux sœurs de Saint-Paul. Je crois que le diocèse de Chartres pourrait témoigner, l'évêque pourrait témoigner de lui-même ayant été là-bas une fois et...
Ouais. Alors, il y a des bonnes volontés locales, évidemment, là-bas sur place, avec notamment, vous l'avez dit, les sœurs de Saint-Paul de Chartres, mais il y a aussi des gens qui ont tout pour être heureux ici, en France, en Eure-et-Loire, et qui décident de partir un beau jour là-bas en Haïti, avec leurs enfants. Racontez-nous cette petite famille que vous avez
rencontrée. Alors là, c'est par hasard, dans l'Écho républicain, pardon pour la pub, il y a 10 mois à peu près, je vois un article, ils quittent tout pour Haïti. Et c'est la famille Gouillard de Nogent-le-Roi, le papa, Pierre, je crois que c'est Agnès la maman, les trois enfants. Ils partent pour 2 ans avec la Fidesco en coopération. Ils quittent leur boulot, ils vendent la maison, etc., etc., élèvent la partie. Et ils se retrouvent dans la grande, grande banlieue de Port-au-Prince, à une quinzaine de kilomètres. Et ils travaillent avec l'association chrétienne Fidesco, qui ressemble à la DCC, la délégation catholique à la coopération. Et lui, il est responsable, elle fait l'école, elle travaille dans l'école qui est juste à côté, et puis lui, il est responsable de la reconstruction ou la construction de petits villages, de 20, 30, 50 maisons, antisismiques bien sûr, mais il y a l'eau, parce que là, c'est au ras du sol, c'est pas très loin de la côte, donc il y a de l'eau. Et puis, ces maisons, elles sont en accession à la propriété s'ils le veulent, ça responsabilise, et je n'ai vu aucun des villages abîmés ou sales. Chacun est responsable de son petit truc. Il y a des arbres. En 3 ans, même en 2 ans, ça pousse. Tout pousse, je vous l'ai dit. Et là, c'est des belles petites réalisations. Et ça participe aussi de... Il y a d'autres associations qui font ça. Et ça permet quand même... On voit. Il y a encore un ou deux petits camps que j'ai vus, de camps de réfugiés, comme on l'appelait, du séisme. Mais non, la reconstruction est là. Et ces gens-là, j'ai la photo sous les yeux, ils élèvent des poules, 2 poules, il y en a 3, parce qu'il y en a une qui est dans les bras du petit garçon, et ils ont des œufs frais, ils sont très heureux, et j'allais dire, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ou des parents qui ont des jeunes qui ne savent pas forcément trop quoi faire, avant de s'engager dans la vie active, si on est architecte, si on est médecin, si on est infirmière, si on fait un peu de connaissances d'agriculture, un peu de n'importe quoi, partez un an ou deux en coopération, c'est une expérience humaine très riche, et ce couple, quand il va rentrer, il va être super. Hein.
Ouais. Surtout les enfants, on se dit que les enfants ont
eu un petit peu de mal à s'habituer, parce qu'ils font tâche. ces trois petits blancs au milieu de la classe de 600 élèves. Tout, là, on les voit, on les repère tout de suite. Mais non, ça y est, maintenant, ils n'ont plus ce problème. Et au départ, oui, on dit ils ont eu un petit peu de mal. Mais maintenant, non. Ouais. Ça y est, c'est vrai. Ouais. Si des gens de Nogent-le-Roi, il y en a qui écoutent et qui les connaissent, eh bien, sachez qu'ils sont très heureux de leur projet. Et puis, à côté de... Et là, lui, il est aussi responsable de... Parce que la Fidesco... Pour avoir un financement, c'est pas, ils font un peu de l'autofinancement, même s'ils sont aidés par les organismes internationaux, en particulier le Secours catholique. Ils ont monté une usine une boulangerie et une usine de pâtes, et puis un élevage de pintades, et puis une fabrique de parpaings. Alors ils ont un petit peu de mal à fabriquer les parpaings parce que la machine est de 18 cm et il faut des parpaings de 20 cm. Comme si une maison avec des parpaings de 18 cm, ce n'était pas possible d'en construire une. Ça doit être encore un ingénieur européen qui est passé par là.
Il y a des normes derrière, oui, tout ça, voyons. Sans doute.
Mais une belle expérience.
Ouais. Donc, je crois qu'on peut peut-être quand même redonner là encore une fois l'adresse des Sœurs de Saint-Paul pour ceux qui souhaiteraient aider financièrement à tous ces projets, parce qu'on voit
qu'il y a plein de projets. En particulier, elles ont le projet, elles aimeraient bien qu'on adopte en parrainage une petite fille, Abriana B. Rihanna, petite fille qui a 7 ou 8 ans. L'école coûte 300 euros par an, 25 euros par mois. Et cette petite, son papa est en prison, sa maman est décédée, la famille main. Mais la petite, quand elle ne va pas à l'école, elle pleure. Et la sœur m'a dit, si vous trouviez des parrains, ça nous arrangerait. Et ben, c'est l'adresse générale des Sœurs de Saint-Paul, c'est Sœurs de Saint-Paul de Chartres, 5 rue Saint-Jacques, 28 000 Chartres. Puis après, vous allez taper sur Internet et puis elle ferait le relais. C'est Sœur Jacqueline c'est pas tout à fait Sœur Jacqueline, c'est une autre sœur qui s'occupe de l'école, mais qui... J'ai promis d'en parler et j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose.
Parrainer un enfant ici engage à quoi exactement ?
Comme un parrain, j'allais dire, ouais, presque religieux. Je m'engage pendant 5, 10 ans à payer les études. Et après, certainement pas à faire venir en France parce que c'est pas forcément recommandé. Il faut qu'il reste là-bas pour travailler. Mais si, grâce à des parrains, cette petite peut aller jusqu'au brevet, jusqu'au bac, elle est sauvée. Et puis ça fait boule de neige. Et c'est pareil, j'ai retrouvé le petit garçon il y a 3 ans. J'avais Woodloff, un petit garçon que j'avais rencontré avec le bras coupé. Alors je le retrouve là dans l'école. La sœur lui dit, tu le reconnais ? Il dit non. Bon, c'est normal. Il avait 4 ans à l'époque. Et là, il en a 7. Et c'est un petit garçon qui veut être ingénieur. Alors, il a le bras droit qui est coupé, mais il travaille de la main gauche, il est plein de vie. Et puis, le samedi suivant, je retourne à l'école, la sœur me dit, il n'est pas là. Bon, tant pis, il n'est pas là. Et j'étais dans la cour en train de jouer avec les enfants, et il arrive. Si, il était là, mais la sœur ne l'avait pas vu. Et là, je lui dis, tu me reconnais ? Ah oui. Ça y est, il a imprimé qui j'étais. Alors lui, il n'y a pas besoin de parrainage puisqu'il a sa famille qui est là et qui a les moyens. Mais les sœurs, voilà, elles font appel à toutes les... Chez nous, qu'est-ce que c'est que 25 euros ? Ça va bientôt être le prix d'une place de cinéma.
Mais là-bas, c'est quelque chose.
Et là-bas, c'est un mois d'école. Ouais. C'est un mois d'école, sachant que l'école... on paye l'uniforme, on paye les cahiers, on paye les... Je crois qu'elles ont un petit peu aussi... Elles doivent avoir un repas. Et non, c'est important.
Ouais.
Je crois que, faut quand même qu'on se remue, nous. On braille la bouche pleine. Et voyageant beaucoup dans les pays pauvres ou grâce aux sœurs, dans des pays où elles sont en tenue de service, moi, je vois que... on n'a pas à se plaindre. Et si on pouvait faire cette expérience de ces jeunes qui vont là-bas, si tous, avant de s'engager dans la vie, on faisait cette expérience, je crois que ça changerait notre vision et de notre monde à nous et du monde en général.
Et pour ça, on peut donc passer par Fidesco. Vous pouvez nous rappeler...
Alors, il y a la Fidesco, il y a la DCC, la Délégation catholique à la coopération. Dans chaque diocèse, il y a toujours quelqu'un qui... Puis on tape sur Internet. Coopération catholique, on trouvera tous les organismes. Et là, c'est des trucs... On a nos jeunes de Marie et puis Édouard qui, l'année dernière, sont partis en Terre Sainte, enfin en Palestine. Et Non, on a des jeunes. Il y a eu Benoît Grassin, et, non, c'est David Grassin qui, il y a quelques années, est parti aussi avec la Fidesco en Côte d'Ivoire. Donc, on a des jeunes, mais ça se sait peut-être pas assez.
Ah, si, voilà.
Et ouais. puis ça met un peu de plomb dans l'aile, hein, puis du plomb positif, si je puis dire.
Didier, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup pour ce voyage. Et puis, je pense que nos auditeurs et auditrices auront compris. Un petit coup de pouce pour Haïti ne serait pas de trop.
Merci aux sœurs.
A castle or a crown, and every night he lays his body down in a different town. But one thing stays the same, everybody knows his name. And people may laugh or cry as his stories are told, to tell the truth like this, a man must be bold, and the people are glad for the thanks he shares. Everybody knows he cares. By the light of the moon comes a flood of emotion. Riding like the deep blue sea, Riley B. King. Out of the darkness and into the light, to fight the peaceful warrior's fight. Such a beautiful sight, and the way you feel watching him with Lucy. And the heart of a man is open wide, and he closes his eyes, and he looks inside to a love of the world through the song he sang, giving it everything. By the light of the moon comes a flood of emotion. Riley B. King, be the king of the ocean. He's royal blue,
oh yeah,
like the deep blue sea. Riley B.
Right. like the deep blue sea. Wiley.